Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, dans le temps du débat, Paris oublie-t-il ses territoires ? Le mot « province », devenu presque un gros mot, serait-il en train d'être réhabilité ? Après la crise des gilets jaunes qui a remis sur le devant de la scène la France des ronds-points, des automobilistes et des travailleurs invisibilisés, après les confinements et la fuite des métropoles pour les ruralités, après les révoltes agricoles et le retour des manifestations contre la réforme des retraites dans les villes moyennes, sommes-nous en train d'assister à la revanche de la province que Jérôme Batou, dans son essai du même nom, définit comme une révolution lente. Historiquement, c'est Louis XIV qui installe l'idée de province en instaurant la cour à Versailles. Aujourd'hui, la cour et ses pouvoirs politiques, économiques et culturels sont à Paris, et les élites aussi. Le territoire national qui a divisé ses régions par deux en 2015 en osant même changer leur nom est-il aussi fracturé que l'a montré le vote des dernières élections européennes où Jordan Bardella du Rassemblement National arrive en tête dans la plupart des communes françaises quand il tombe à la 6e place à Paris où c'est Raphaël Glucksmann du PS qui l'emporte. Ce clivage Paris-Province est-il aussi simpliste qu'il en a l'air ? Comment réduire ces inégalités territoriales ? Et surtout, pourquoi les services publics ont-ils brusquement disparu du débat public ? Pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir à distance une nouvelle fois en raison du dispositif pour les Jeux Olympiques ici à Paris, Magali Della Souda. Vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour et merci.
Bonjour, bonsoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, politiste. Vous avez travaillé sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes en Gironde. D'ailleurs, je crois que vous êtes en ce moment même à Pessac. Et vous avez publié en 2022 les nouvelles femmes de droite aux éditions Hors d'atteinte. Avec nous également ce soir, Maïr Guven. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et éditeur, prix Goncourt du premier roman en 2018 pour Grand Frère aux éditions Philippe Ray. Vous avez fondé le label La Grenade au sein de la maison d'édition Jean-Claude Lattès pour faire entendre de nouvelles voix. Et je cite votre dernier livre sorti en 2024, Rien de personnel, toujours chez Lattès. Et puis on a un maire avec nous, sans étiquette, de Châteaudun, ville de 13 000 habitants en Eure-et-Loire. Bonsoir Fabien Verdier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'idée de ce débat. Vous êtes le fondateur du mouvement pour le développement des villes sous préfecture. Votre regard sera évidemment aussi intéressant que ceux des deux autres.
Tout se passe dans la vie politique française, comme si chacun s'était abstrait, avait vite oublié la soirée cauchemardesque du 30 juin. Cette soirée où... le 30 juin, c'était le soir du premier tour, où pendant quelques minutes, la France entière a cru... Et même à craint que le Rassemblement national pouvait avoir ou une majorité absolue ou une majorité relative. Et que face à ce risque inouï, tout le monde a pris sa responsabilité pour, dans une coalition de fait, le Front républicain, eh bien, s'entendre pour que ce désastre n'arrive pas. Et depuis 10 jours, alors que nous avons parlé pendant 4 semaines d'idées, alors que nous avons parlé des salaires qui devaient augmenter, de la santé qui devait être accessible, de l'école qui devait être refondée, de la sécurité qui devait être réelle, et bien depuis 10 jours, nous ne parlons plus, la classe politique française, que des postes. Je crois que c'est désastreux et je crois que c'est le carburant absolu du Rassemblement national.
La voix du député de la Vienne réélu, Sacha Houlier, sur France Inter ce matin du 17 juillet. Il vient de quitter le groupe Renaissance pour être à ce stade chez les non-inscrits à l'Assemblée. Et je trouve que cet entretien ouvre particulièrement bien notre discussion. Je ne sais pas ce que vous en pensez depuis Châteaudun, Fabien Verdier. On a la sensation dans le débat public qu'on ne parle que des postes de potentiel Premier ministre, des postes à l'Assemblée nationale, mais que les problématiques du quotidien des Français sont passées sous les radars.
Oui, tout à fait. Les 10 millions de voix du Rassemblement National des élections législatives de ce mois de juin 2024 sont colossales. Nous, on l'a vu en Eure-et-Loire, il y a 365 communes, seules 3 où le RN n'est pas en tête le 9 juin aux élections européennes. Donc il y a un vrai signal d'alarme fait par les Français, très puissant. Plus de 10 millions de voix, c'est colossal. Et moi, je pense qu'il est lié à la déprise dans les sous-préfectures, publiques et privées, la désindustrialisation, le départ des services publics, sentiment d'abandon, des TER qui marchent moins bien. Et donc, les Français ont voté pour ne pas disparaître. Ils l'ont dit très clairement lors de ces 3 votes en juin-juillet 2024.
Maïr Guven, quelle est votre vision de Parisien sur ce débat qui a lieu en ce moment même du point de vue politique ?
Ma vision, c'est celle d'un Parisien qui a grandi en province, qui a vécu 20 ans, qui est très très sensible à mêler ses multiples héritages en lui. je suis tout à fait parisien aujourd'hui, mais je reconnais que j'ai grandi à Nantes et je reconnais qu'à Paris, pardonnez-moi l'expression, mais on est un peu à côté de la plaque. On se croit en ce moment comme dans le film ridicule de Patrice Lecomte où ici ça discute de poste, etc. Alors que effectivement il y a une urgence puisque il y a 10 millions de personnes très fâchées dans ce pays, pas autant de fachos, mais il y en a quand même pas mal. Et il va falloir qu'on se pose sérieusement une question, de nombreuses questions, comment reconstruire notre pays, comment lui redonner de la force. Et moi, je crois qu'il faut redonner de la force au local et aussi donner de la parole aux gens, parce que les gens ont besoin de parler. Et moi, je le vois en tant qu'éditeur, je lis les manuscrits que je reçois, et comme j'ai une ligne où je veux ouvrir à la diversité sociale, culturelle et géographique, j'ai accès à ce que les gens racontent. Et je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux gens. Voilà.
Magali Della Suda, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et peut-être même pour élargir, je crois que dans vos travaux, vous observez que, y compris au sein des grandes villes, on peut avoir une autre vision de la société, notamment sur l'écologie et sans doute peut-être aussi sur le débat public.
Oui, tout à fait. Je souscris pleinement à ce qui a été dit d'abord par Monsieur le maire de Châteaudun sur l'impérieuse nécessité de repenser les services publics comme un levier essentiel d'accomplissement de la citoyenneté sociale. Sans ces services publics, les autres pendant de la citoyenneté ne peuvent pas être réalisés. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et puis, ce qui a été dit aussi par Mère Guren sur ce besoin de parler et sur cette force du local. Et nous, ce qu'on a identifié dans le mouvement social des Gilets jaunes et ce qu'on a vu et lu dans les cahiers de doléances, c'est cette expression d'une relocalisation du politique. C'est cette demande des citoyennes et des citoyens, des habitantes et des habitants des territoires, d'être pris en considération par celles et ceux qui, depuis Paris ou depuis les grandes métropoles, décident de leur destin et prennent des décisions dont ils n'auront jamais ni à rendre compte et dont ils n'auront jamais à subir les conséquences négatives.
Magali Della Suda, pour continuer encore un petit peu avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé dans ces cahiers de doléances que le pouvoir central parisien ici, et je pense notamment à Emmanuel Macron et ses ministres, n'ont pas beaucoup regardé?
Alors, si je peux juste prendre le temps de rappeler ce que sont ces cahiers.
Bien sûr.
Ce sont des documents qui ont d'abord été ouverts par les Gilets jaunes dans les manifestations et sur les ronds-points dès le mois de novembre 2018, un peu partout en France. Ces cahiers-là, ils ont pour certains été reversés dans les opérations mairies ouvertes qui sont ouvertes au mois de décembre par l'Association des maires ruraux de France et aussi par les maires d'Île-de-France. Et certains maires donc ont proposé aux Gilets jaunes d'accueillir un registre de doléances déjà tenu sur les ronds-points dans les mairies. Donc ça a été le cas par exemple à Libourne. Et puis, troisième temps du débat, Emmanuel Macron, voyant ses élus locaux redevenir le maillon essentiel qui relie les citoyennes et les citoyens aux autorités politiques, propose un grand débat national avec un formulaire préétabli, donc c'est tout sauf un débat, c'est un questionnaire. Et il dit aussi qu'il va falloir des cahiers d'expression libre, des cahiers citoyens, pour permettre une expression plus large des demandes des citoyens et des citoyennes. Et il va, par une série de circulaires, définir ensuite l'endroit où vont être stockés ces cahiers. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons dans la centaine de centres d'archives départementales les originaux de ces cahiers, avec à la fois les contributions des Gilets jaunes, les cahiers des maires ruraux de France ou d'Île-de-France, et puis les cahiers rattachés au dispositif du grand débat. Et selon les cahiers, eh bien, nous n'avons pas tout à fait les mêmes mots, les mêmes paroles et les mêmes gens qui participent. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans ces cahiers un grand besoin de justice sociale, d'écoute démocratique, de participation et d'équité, d'égalité entre les territoires. Et cette égalité, elle se fait comment? Elle va se faire au moyen des services publics. Et il y a une très forte demande qu'on a vue dans nos questionnaires auprès des Gilets jaunes et qu'on a vue dans les cahiers de doléances de sauvegarde, de maintien, de déploiement des services publics dans tous les territoires.
Fabien Verdier, vous qui êtes en première ligne en Eure-et-Loire, est-ce que vous diriez que ces gilets jaunes, leurs revendications, elles ont été oubliées? Est-ce que vous diriez aussi que le vote pour le RN dans ces territoires aux européennes, il a un lien avec ce qui s'est passé en 2018, cette révolte-là?
Oui, là, ce lien-là, bien sûr, ça a été oublié. Les classes moyennes sont oubliées, les villes sous préfecture sont oubliées, les 235 villes. Et le pays est en train de mourir, on est sur cette ligne de front. Et oui, je pense les dénis aux élections, moi je comprends ce vote, pour, malheureusement les extrêmes, je ne le partage pas mais je le comprends, et il faut entendre ce cri d'alarme, il est là depuis 2002, même à Dreux c'est 1983, donc ça fait 30 ans que ça monte, les gilets jaunes ont été oubliés, la crise agricole a été oubliée, les émeutes de juin 2023 également ont été oubliées, c'était Montargis pour une ville sous préfecture du Loiret par exemple, et tous ces oublis créent un ressentiment. Et je pense que les désistements pour les triangulaires ou les quadrangulaires législatives ont encore renforcé cela. Et on souffrira aux prochaines élections de cette montée encore plus forte parce que le RN n'est pas aux commandes, n'est pas au pouvoir, n'est pas dans ses coalitions ou ses combinations. Et donc, à mon avis, on va au-devant de grandes désillusions si on n'a pas un plan d'action puissant pour ces villes moyennes, pour ces villes sous préfecture. Il y en a 235 en France, en comptant les Outre-mer, Saint-Pierre-en-Martinique, en comptant la Corse, Calvi par exemple. Et il faut le faire, il faut vraiment un plan d'action puissant et efficace pour ces villes sous préfecture et ces territoires.
Maïr Guven, quelle est votre analyse, vous, des trois votes auxquels on vient d'assister, les européennes, les législatives, votre regard d'écrivain là-dessus, et peut-être aussi comment vous expliquez les fractures territoriales, comme on les appelle parfois rapidement dans les médias?
Je dirais qu'elles sont rapidement expliquées par de l'idéologique et du sociologique, or en fait, elles concernent aussi des territoires et des histoires. Moi qui viens de l'ouest de la France, ça a longtemps été, ça a toujours été un bastion contre les extrêmes, plutôt un bastion de stabilité. C'est quasiment une terre qui est un mélange de culture latine, culture anglo-saxonne et culture celtique, et qui fait que la rhétorique, vous voyez, le débat politique très puissant qu'on connaît en France, a assez peu de prise sur les gens. Donc ce que je peux constater, et c'est une terre où il y a moins de ras-le-bol, puisqu'il y a eu moins de désindustrialisation, du fait qu'il y avait moins d'industrie. Et donc ce que raconte aussi cette fracture, c'est que les régions ont perdu en puissance économique depuis 40 ans, puisque l'industrie s'est évaporée à l'étranger, et qu'en perdant cette puissance économique, elle a perdu une partie de son statut, de sa fierté, de son honneur, et qui lui reste ses enfants, qui malheureusement pour les... Ceux qui font les meilleures études doivent s'échapper à Paris pour rejoindre l'industrie des services à Paris. Ça, c'est le cas de ma génération. Et donc, on voit bien que dans les grandes villes, il y a les têtes d'ampoule, les gens comme moi, qui sont partis en majorité, et que restent ceux qui n'ont pas eu la chance, ou en tout cas ont moins eu la chance de faire des études. Et cette aspiration des cerveaux vers les centres urbains, c'est pas de dire que les gens plus intelligents partent, c'est juste que les gens formés sont partis. Et les gens formés sont aptes à créer des projets, gérer des choses. Et donc, cette fracture, moi, par exemple, dans mon domaine, le domaine de la culture, je le vois à une donnée essentielle, c'est le montant d'investissement du ministère de la Culture entre Paris et le reste de la France. Et quand je dis Paris, c'est Paris Intramuros. À Paris Intramuros, le ministère de la Culture investit en moyenne 140 euros par habitant, par an, alors qu'il investit à peine 15 euros sur le reste du territoire. Et ça, il va falloir qu'on y réfléchisse. Hein. Je vous donne un exemple. Quand le Louvre est rénové dans les années 80 par François Mitterrand, l'État finance quasiment 100%. Quand le Louvre-Land s'est créé, l'État met à peine quelques centaines de milliers d'euros. Et on peut citer plein d'exemples. Le Festival interceltique de l'Orient, premier festival en France et d'autres. Il y a une question comme ça qui se joue où il va falloir que nous, les Parisiens, on se soucie énormément de ce qui se passe dans le reste du pays. Sinon, il n'y aura aucune fracture qui sera colmatée.
Et Fabien Verdier, vous, c'est ce que vous observez quand vous êtes arrivé à Châteaudun, parce que vous n'étiez pas du coin, hein, de mémoire. Vous avez voulu relancer la culture. À quel type d'obstacles vous vous êtes heurté, même sur d'autres sujets, si vous voulez élargir?
Bien sûr, Maïr Guven a tout à fait raison. Il y a une sécession territoriale, culturelle, des élites. Moi, je vois les cadres de mes entreprises industrielles n'habitent pas Châteaudun, mais plutôt Orléans ou Paris, ou l'Île-de-France. Et moi, je le résume comme ça. Du coup, ils n'habitent pas à Châteaudun, pas dans nos villes sous préfecture. Ils n'amènent pas leurs enfants au judo le samedi, pas au lycée Zola. Et c'est ça qui manque aussi. On a une sécession territoriale. Et globalement, on a une rupture territoriale aussi parce qu'il y a un revenu médian très haut à Paris et très bas dans nos villes sous préfecture. Et on peut le résumer au prix de l'immobilier au mètre carré. On est à 12 000 euros, 11-12 000 euros à Paris, je crois, et à 1 400 euros à Châteaudun dans l'ancien. Et ça fait qu'on a une espèce de bulle cognitive. Cette bulle cognitive dans les métropoles, elle rejaillit dans les politiques publiques qui sont menées.
Magali de la Suda, est-ce que vous observez aussi ce sentiment d'abandon, parfois de mépris parisien, dans les cahiers de doléances de Gironde que vous avez pu ouvrir ?
Oui, mais plus que parisien, c'est vraiment le mépris du chef de l'État. Je crois que ça, c'est vraiment très, très, très clairement exprimé. Et c'était aussi dans nos questionnaires auprès des Gilets jaunes. Les éléments qui ont été soulignés sur la question de la culture et de l'accès aux services publics, il faut le rappeler, concernent effectivement les sous-préfectures de province qui ont vu tour à tour les centres de trésor public, les petites antennes des hôpitaux des CHU fermés, les INSPE, les antennes des établissements de formation des enseignants qui ferment. Ça veut dire que ça oblige aussi tous ces agents de l'État-là, tous ces fonctionnaires, tous ces personnels à migrer vers les grandes métropoles. Ça accentue la pression immobilière dans un contexte de financiarisation et ça accentue aussi la déprise. Ça, pour moi, c'est un point vraiment important à avoir à l'esprit. Et ça a été accéléré depuis le quinquennat de François Hollande et vraiment avec une inflexion très forte depuis les quinquennats d'Emmanuel Macron. Je pense aussi à un autre type de service public qui ferme à tour de bras et un rapport récent de la Cour des comptes reprenait aussi celui de l'Académie de médecine sur les maternités. On a perdu un tiers des maternités en 20 ans, alors que la France a connu un petit baby-boom entre 2000 et 2006. Et aujourd'hui, ces rapports préconisent de fermer un quart des maternités restantes. Mais fermer une maternité, c'est pas seulement les agents, c'est pour les femmes, c'est pour les parents. Et ça implique aussi des choix familiaux où, effectivement, quand on envisage une fratrie, eh bien, on va pas aller s'installer dans la ville où la maternité a fermé. On va aller dans la ville un peu plus grande parce que ça devient une gestion très compliquée. Et ça, là encore, depuis les ARS et depuis Paris, il y a des décisions qui sont prises et qui mettent vraiment à mal la solidarité nationale et territoriale et l'accès de chacun et de chacune à un minimum de services publics.
Fabien Verdier, vous partagez, est-ce que cette carte du vote RN, il ne faut peut-être pas que la lire d'un point de vue territorial, mais aussi d'un point de vue social, et on pourrait aussi ajouter les services publics?
Oui, sanitaire, elle a tout à fait raison. Moi, je suis directeur d'hôpital de profession. Nous, à Châteauneuf, on nous a enlevé notre maternité il y a 5 ans. On a 700 agents dans notre hôpital. Ils se développent. Pourtant, on va avoir l'IRM, on refait les urgences. On a un surgicube, le bloc opératoire. Mais en enlevant nos maternités et en nous mettant des routes nationales à 80 à l'heure, quand on est à 50 km d'une préfecture de région ou autre, il faut plus d'une heure pour ces femmes. Comment voulez-vous accoucher? Certaines peuvent accoucher en dehors d'une maternité. Et en plus, il y a de plus en plus d'accouchements hors des maternités maintenant. On a un taux de mortalité infantile presque plus élevé qu'à la fin du XXe siècle. Donc la sécurité sanitaire, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et quand je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que la technocratie, à un moment donné, a pris le pouvoir sur le politique, par exemple les ARS, où il n'y a pas de reddition des comptes, ils ne sont pas élus le dimanche, ils font des choix politiques, de politique publique, qui sont non acceptables. Et c'est nous, les maires, les élus locaux, qui répondons devant la population, devant le peuple, alors qu'on n'a pas décidé, qu'on est même à l'opposé de ces décisions-là. Il faut retrouver des maternités, il faut de l'industrie, il faut de la santé, des hôpitaux MCO, comme je dis, médecine, chirurgie obstétrique, et des TER et l'éducation. C'est la condition de revitalisation de nos 235 villes sous préfecture.
Maïr Guven, vous parliez tout à l'heure de la région nantaise où vous avez grandi. C'est vrai que si on regarde par exemple la Bretagne qui n'a envoyé aucun député RN, l'augmentation du PIB par habitant depuis 2008 a augmenté de 30%. L'Île-de-France par exemple, où Anne Hidalgo se targue par exemple de ne pas avoir beaucoup de votes RN, est la région qui s'est le plus enrichie depuis 2008. Vous partagez ce constat-là ?
Sûr, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il faut lire cette carte RN comme aussi une carte des revenus par habitant.
Oui, évidemment. Moi, j'ai grandi dans une région riche, enfant de quartier populaire, mais d'une région riche, ça n'a rien à voir avec enfant de quartier populaire d'une autre région. Les taux de chômage dans l'Ouest sont extrêmement bas. Par ailleurs, comme je disais, il y a aussi une culture politique où l'Ouest et la Bretagne notamment ont toujours fait un peu différemment du reste du pays. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut pas se dire que les territoires et la province, on n'en a besoin que dans les moments de crise, c'est-à-dire pendant la pandémie et le confinement, pendant les guerres où on a besoin de soldats pour les envoyer au front, pendant la débâcle de 40 où on va se cacher, et puis pendant les vacances parce qu'on est fatigué de l'année. C'est pas possible. Et en plus, ça va contre l'esprit universaliste français. C'est-à-dire que d'un coup, ça dénote avec ce qu'on nous apprend à l'école, qu'on est tous égaux, que toute parole se vaut, que toute vie se vaut. Et on arrive à Paris où les Parisiens arrivent chez vous et puis ils se moquent de votre accent. Alors toujours avec élégance, parce que c'est une manière de de bien faire à Paris, mais si vous voulez, ça vous brise un petit peu. Et à force d'être brisé, bah, vous en arrivez aux gilets jaunes, vous en arrivez aux grandes contestations qu'on a connues au pays, mais il faut qu'on avance, on peut pas continuer, ça fait 4 siècles que ça dure, cette opposition, depuis la Fronde, on peut pas continuer constamment. On a eu la crise à la Fronde, on a eu celle à la Révolution française, on a eu celle pendant les guerres, en 1958, c'est encore une crise qui est lié à Paris-Provence. Donc, il va falloir trouver une solution. Moi, qui ai vécu en Allemagne, je sais pas, ça me paraît absolument évident, mais j'ai l'impression que à Paris, les gens sont complètement enfermés dans l'environnement et ne peuvent pas voir plus loin que l'horizon, c'est-à-dire le périphérique. Et donc, ils sont dans des schémas narratifs très, très parisiens. La vie, c'est Paris, les cités, au loin, il y a quelques paysages avec des champs et des tracteurs, quoi.
Maillard Guven, pour continuer avec vous, éditeur, écrivain, est-ce que vous diriez que du point de vue politique, ce clivage que vous décrivez très bien a été aggravé par la Startup Nation d'Emmanuel Macron ?
Probablement, parce que il a pas non plus eu de geste en direction des territoires et de la province. Ça a été un essai, hein, le projet technolibéral français, la Startup Nation, les Français ont signé pour à un moment, on n'a pas réussi à l'imposer, ou en tout cas on a réussi, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'il fallait faire différemment. Aux États-Unis, la Californie n'est pas à New York, n'est pas à Washington, peut-être qu'on aurait dû créer notre Silicon Valley à la française, je sais pas où, à Biarritz ou dans le centre de la France, je ne sais pas, mais en tout cas... Pour moi, notre réservoir d'apaisement, de développement économique, de développement écologique, il est dans les territoires. On va pas l'inventer à Paris, et c'est pas en parlant de pistes cyclables et de vélos qu'on va pouvoir avancer, puisque il faut le faire, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a des enjeux extrêmement importants sur la gestion de l'eau, sur tout un tas de choses, la gestion des pesticides. C'est pas à Paris qu'on va réussir à le penser, malheureusement.
Magali de la Suda.
Oui, je voulais rebondir là-dessus. Depuis 2014, en France, on n'a plus de lignes interterritoriales entre les grandes régions qui permettent de traverser la France sans passer par Paris. Aujourd'hui, quand on veut aller de Nice à Bordeaux, on est obligé de passer par Paris, de faire un double changement de métro pour pouvoir traverser la France, alors qu'avant, il y avait un train direct qui allait jusqu'à Nice, voire jusqu'à Vintimille, quand on était bordelais. Idem, on pouvait aller de Nice à Portbou, donc en Espagne. J'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent et celles qui décident reconsidèrent le rôle des chemins de fer dans la construction de la citoyenneté et dans la manière dont elle rend tangible une communauté politique et inscrite dans un territoire. Il y a un très beau livre de Jeanne Weber sur la construction de l'État-nation qui raconte comment, donc la fin des terroirs, comment le chemin de fer a permis la construction d'un État-nation, d'une sphère politique au niveau national, parce que ça rendait tangible un espace politique élargi. Ben là, avec le démantèlement des chemins de fer français, avec les problèmes des trains du quotidien et des TER, soulignés par Monsieur Verdier, on a un démantèlement aussi de la citoyenneté sociale et politique. Et c'est vraiment fondamental de repenser tout ça avec les personnes qui sont les premières concernées dans les territoires.
Fabien Verdier, maire de Châteaudun, est-ce que c'est ce que vous appelez typiquement la France des TER ? Et de quoi avez-vous besoin en tant que maire de la part de l'État ?
Oui, tout à fait. La France des TER, c'est-à-dire des TER qui soient robustes, qui à 96% arrivent à l'heure, ce qui n'est pas du tout le cas. On a mis trop d'argent sur les TGV et pas assez sur la ligne TER, SNCF Réseau. Des trains plus fréquents et encore une fois, une régularité plus importante. C'est exactement ce qui nous manque, elle a tout à fait raison. À Langon, en Gironde, etc., ce sont des territoires qui sont espacés. Souvent, les sous-préfectures, on est espacés par rapport au chef-lieu. Ça a été construit comme ça, justement pour ça. Et on a perdu... en l'espace de décennies, ce rapprochement territorial. C'est vrai qu'au 19e siècle, comme elle le soulignait avec Eugène Weber, on a fait État-nation parce qu'on a porté la ligne de chemin de fer. Nous, c'est Paris-Austerlitz, Châteaudun, Vendôme. C'est vers 1850, 1860 que ça arrive, milieu du 19e. Aujourd'hui, en fait, on nous enlève tout cela. Et les gens qui votent, les 10 300 000 qui votent RN, c'est aussi ça qu'ils nous disent. Ils nous enlèvent notre maternité, ils nous enlèvent notre train, ils nous enlèvent de l'industrie, ils nous enlèvent notre base aérienne. Et à la fin, comment voulez-vous leur redonner une espérance sociale?
Fabien Verdier, que lors d'un des dépouillements, vous aviez même vu parfois des électeurs mettre 2 bulletins Jordan Bardella dans l'urne, non pas donc pour voter pour le RN, mais plus pour exprimer cette colère.
Tout à fait, je sers deux bulletins dans le Grand Châteaudun à Brou. Des fois, ils ont mis deux bulletins pour montrer qu'ils voulaient tellement ce RN, tellement M. Bardella, qu'ils en veulent aller deux fois. Et j'en reviens aux usines à l'industrie, parce que si on n'a pas du PIB, si on n'a pas des usines, nous on demande par exemple avec les villes sous-préfectures 100 hectares de développement industriel par territoire sous-préfecture. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas d'argent à l'État, on demande un droit à construire dans le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, pour qu'on puisse développer de l'industrie dans ces territoires. Plutôt l'a fait, nous on ne peut plus le faire. Et on est en train complètement d'obérer l'avenir de nos territoires. Et il faut vraiment qu'à Paris, ils comprennent cela.
Maïr Guven, j'aimerais vous lire la déclaration de la maire de Paris, Anne Hidalgo, vous qui êtes un homme de mots. C'était le 19 juin, 10 jours après les élections européennes, lors d'une conférence sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. « Paris sera toujours un rempart contre les assauts de la haine, un phare diffusant largement les valeurs humanistes et de liberté. » Comment vous, l'éditeur, vous lisez ces mots ?
Bah comment je le lis, c'est la pure tradition jacobine depuis la Révolution française. On a parlé d'Eugène Weber, mais il l'explique très bien dans La fin des terroirs, comment à partir de 1792-93, on a par exemple l'abbé Grégoire qui fait une grande déclaration en disant « deux tiers des nouveaux citoyens ne parlent pas français ». Or, pour qu'ils acquièrent les valeurs d'universalisme, de république, il va falloir qu'ils apprennent le français. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au départ ? Au départ, on crée un bureau de traduction. Et puis très vite, on n'a pas d'argent, on voit que la République est exsangue, donc on passe tout en français, et on met 130 ans à imposer le français aux gens, et l'état d'esprit parisien. Et c'est exactement ça qu'elle raconte, je crois, quand elle veut le dire, parce que moi je veux bien que Paris soit un rempart, mais on va pas finir comme dans le village d'Astérix. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir besoin du reste du pays, sinon on fait sécession. Et Fabien Verdier le disait très bien, la sécession des élites, c'est un phénomène sociologique raconté depuis 40 ans. Christopher Lasch a fait un merveilleux livre dessus, qu'on peut critiquer par certains égards, mais ça raconte extrêmement bien. Moi-même, j'en ai été victime de cette sécession. À un moment, quand je suis parti, je me suis dit, c'est bon, c'est fatigant, tout ça. Et en réalité, non. Et encore une fois, une vie se vaut.
C'est-à-dire, Maïr Guven, quand vous dites victime de cette sécession ?
C'est-à-dire qu'à moi, à un moment, je me disais victime et en même temps bourreau. Je veux dire, à un moment, je suis arrivé à Paris, on trouvait que j'étais trop lent ou que j'avais un vocabulaire un peu provincial. Et puis, j'ai pris les codes. Donc à une époque de ma vie, j'ai été transfuge, j'ai pris les codes, niant les autres et trouvant que les gens de ma région d'origine étaient trop lents ou pensaient mal ou n'étaient pas assez dynamiques ou je ne sais quoi. Et finalement, je crois que je me trompe, puisque aujourd'hui, ces gens, on les vit que la majorité des Français désirent, c'est-à-dire une maison individuelle, ils vivent dans un bourg globalement rénové, dans une région où il y a des services publics. Et quand vous regardez la dernière étude de l'Observatoire des inégalités, c'est ce pourquoi les Français votent. À plus de 50%, ils veulent une petite ville tranquille, bien rénovée, jolie, avec des services publics. Donc, si vous voulez, j'ai bien vu que on peut lire tous les livres du monde, écrire les plus belles choses, penser abstraitement. Il y a un réel, et le réel vous dépassera toujours et vous ramènera toujours sur Terre.
Magali de la Ciudad, vous qui êtes dans le réel comme beaucoup de gens, est-ce que cette déclaration d'Anne Hidalgo, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Fabien Verdier et Maïr Guven, ça rejoint ce que vous appelez de vos voeux sur l'organisation du territoire, à savoir sortir de la répartition de la France en étoiles, avec Paris qui brillerait au milieu? Et si oui, comment faire?
Oui, alors, c'est ce qu'on s'était dit avant. Effectivement, cette construction de Paris en étoile très centralisée, elle avait été battue en brèche par des politiques d'aménagement du territoire, de développement industriel, qui ont été extrêmement mises à mal par les politiques néolibérales, par les cures d'austérité infligées aux services publics, mais pas seulement. C'est aussi toute la réorientation de la dépense publique vers la Start-up Nation, vers des entreprises localisées en région parisienne. Et j'ai repensé là à ce qui s'était passé à Crépol, près de Romans. Romans, c'est la dernière capitale française de la chaussure de luxe. Toutes les usines ont fermé aujourd'hui en France. On ne peut pas s'acheter, quand on est une femme, un soutien-gorge fait par des corsetières de l'industrie française. Tout a été délocalisé depuis 20 ans. Donc il y a un tissu industriel à reconstruire qui permettrait aussi de sortir de cette concentration parisienne. Et puis par ailleurs, il existe encore en Dordogne, dans le Lot, ces régions, ces départements ruraux où il y a de la petite industrie. Et c'est ces tissus-là qu'il s'agirait de revivifier, ce serait important. Mais encore une fois, il faut que tout ça soit arrimé à des politiques de transport public intelligentes, des politiques énergétiques aussi intéressantes. suivante. Comment continuer à concevoir des métropoles énergivores qui vont demander le sacrifice de centaines, voire de milliers d'hectares de forêts? Je pense au projet Oriseo pour araser la forêt, pour mettre des panneaux solaires par terre, alors qu'on pourrait mettre ces panneaux sur les parkings et sur les toitures des métropoles, pour satisfaire aux besoins des grandes métropoles. C'est pas dans les Landes ou au fin fond de la Gironde rurale qu'on a besoin de tant d'énergie. Donc, relocaliser et rapprocher aussi les sources de production des besoins des individus. Je pense que ce serait vraiment important pour ne plus avoir ce Paris et le désert français qui avait été fustigé en son temps et vers lequel, malheureusement, depuis 20 ans, tout contraint les citoyennes et les citoyens à aller. Et encore une fois, l'exemple du train où maintenant il faut passer par le TGV pour traverser la France et passer obligatoirement par Paris est une aberration à tout point de vue, financier, économique, énergétique et puis en termes d'accessibilité, parce que des personnes peu mobiles, à mobilité réduite ou avec des enfants ou des personnes âgées, elles ne peuvent pas monter, descendre des escaliers du métro avec leurs valises pour prendre un train sans qu'en plus la SNCF ne garantisse la correspondance en cas de panne de métro.
On vous a bien entendu.
C'est vraiment important que les élus considèrent enfin la réalité des choses.
France Culture, le temps du débat. Astrid de Vilaine.
On est en pleine installation du campement ici et Karine nous fait l'honneur de pouvoir venir nous retrouver.
À travers ce symbole du croissant paysan, c'était vous rendre hommage et vous dire que les Parisiens aussi vous aiment à travers ce qui fait notre fierté à nous. Donc voilà.
Karine Lemarchand, l'animatrice de L'Amour est dans le Pré, accueillie sur un barrage d'agriculteurs qui bloquait l'A4 le 29 janvier 2024. C'est un reportage du Parisien.fr. Et là, j'aimerais avoir vos deux regards, Maïr Guven et Fabien Verdier. Fabien Verdier, peut-être sur les agriculteurs, c'est un peu comme les gilets jaunes, un peu comme les émeutes en banlieue. On en parle médiatiquement un mois ou deux, le temps qu'ils se font entendre, et puis ensuite on les oublie.
Oui, tout à fait. Les agriculteurs, nous, c'est en Beauce. Les agriculteurs sont très nombreux. C'est un atavisme le plus vieux de plusieurs siècles, savoir-faire, qu'on a finalement liquidé par des normes bureaucratiques. Ils sont en double actif à 25 ans. Ils peuvent travailler à Orléans et avoir leur exploitation à Logron, autour de Châteaudun. On ne les a pas entendus, on ne les a pas écoutés. Et c'est, encore une fois, il faut mener une politique de développement des territoires. Pas de cohésion, pas d'aménagement. Il faut vraiment se dire sur l'agriculture, sur l'industrie, il faut développer, redévelopper nos territoires, surtout dans les moyens. On a divergé avec la mondialisation, avec le progrès technique des qualifiants, avec la désindustrialisation et avec la métropolisation. Moi, je suis content que Nantes avance en tant que métropole ou que Toulouse, mais il faut que Châteaudun avance ou Romorantin et ses villes sous-préfectures.
Est-ce que l'Union européenne, et je m'adresse aussi à Magali Della Ciuda, a eu aussi son rôle pour éloigner ces territoires de Paris et du reste du monde? Je pense à cette loi du 27 janvier 2014 qui renforce les métropoles pour qu'elles deviennent des actrices compétitrices sur la scène internationale ou au fonds européen à la même époque pour renforcer les régions. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est tout à fait vrai. L'orientation des politiques publiques européennes va dans le sens de faire émerger de très grandes régions et des métropoles. Et sur les transports, c'est dans le pacte climat, c'est le développement du tout TGV. Et ça, c'est une erreur majeure. Maintenant, ça fait des mois, par exemple, qu'à Modane, les trains ne circulent plus entre la France et l'Italie à cause des éboulements et des effondrements de terrain. La vallée de la Roya avait été sinistrée par la tempête Alex. Là aussi, autre nœud de passage historique entre la France et l'Italie dans les Alpes-Maritimes. Et à ce niveau-là, on est dans une situation qui est devenue catastrophique. Il y a 15 ans, là encore, de Nice, on pouvait aller jusqu'à Venise en train. Aujourd'hui, on est obligé de passer
par là. Mais si on reste, pardonnez-moi, sur le débat sur les agriculteurs, il les citait dans plusieurs pays d'Europe, les normes européennes. Et d'ailleurs, ils ont réussi à les assouplir. Vous l'aviez perçu, ça, dans les cahiers de doléances, Magali Della Ciuda?
Je suis allée sur les ronds-points voir les agriculteurs aussi en Gironde, qui est un tout autre contexte que celui de la Beauce. Et en Gironde, moi, je n'ai pas entendu de récrimination sur les normes et les pesticides. Moi, ce que j'ai entendu, c'est plutôt les injonctions faites à faire du lait dans les années 90, puis ensuite l'État et les politiques publiques qui accompagnent pour planter de la vigne, et puis le marché s'effondre parce que les consommateurs chinois ne sont plus au rendez-vous, et c'est cette très très grande dépendance des agriculteurs à des marchés qui sont pas toujours stables et qui sont parfois volatiles, et puis c'est la fin de la garantie des prix telle qu'elle était agencée au moment de la construction européenne, et ce qui les mettait en souffrance, en tout cas à Langon et en Gironde, moi quand je suis allée les rencontrer, ces agriculteurs, c'est la question du revenu. Eux, et certains et certaines d'entre elles sont bien conscients qu'il va falloir repenser le modèle agricole, revoir la question des pesticides. Les cancers, c'est la première cause de mortalité en France. 40 à 60% sont dus à des causes environnementales. C'est ça l'urgence. Et ces causes environnementales, c'est aussi les pesticides, c'est aussi la pollution. Donc certains touchent bien cela du doigt et ce sont les premières victimes, les ouvriers agricoles, de l'usage des pesticides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des politiques publiques cohérentes qui leur garantissent un revenu. Et au niveau local, là aussi, ça se passe pas à Paris, ça se passe en Gironde, ça se passe peut-être ailleurs. Eh bien, il y a des collectivités qui essaient de structurer les marchés publics pour que les agriculteurs aient des débouchés pérennes dans la restauration collective, par exemple.
Fabien Verdier,
jamais mis en exemple.
Fabien Verdier, est-ce que vous diriez que la loi NOTRe de 2015, qui réduit le nombre de régions pour officiellement réduire le millefeuille territorial, le changement de nom des régions même, hein, les Hauts-de-France, pour fusionner le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la région Sud, plutôt que la PACA, est-ce que ça a pu avoir aussi un impact sur les Françaises et les Français, pour les éloigner des pouvoirs en général ?
Bien sûr, quand tu es à Bressuire en Nouvelle-Aquitaine, tu es plus loin de Bordeaux. Quand tu es à Vitry-le-François, par rapport à la région Grand Est, tu es plus éloigné. Aujourd'hui, le sous-préfet face au DREAL, au directeur régional de l'environnement, il est moins puissant. On a aussi dissous nos sous-préfectures et nos villes sous-préfectures. Aujourd'hui,
ils sont plus que cinq. Pouvoirs, vous diriez, au fil des années.
Oui, par les normes, par la technocratie. Moi, je pense que le côté bobo a tué la République et la France, et la technocratie aussi. On parlait des ARS tout à l'heure. Vous voyez, j'étais à mon hôpital il y a quelques jours. Un échographe, c'est 80 000 à 100 000 euros en investissement. Et bien, on les oblige à changer tous les 7 ans. Pourquoi pas 9 ans, 10 ans. Et bien, à chaque fois, on tue les petits CH, les petits centres hospitaliers, et c'est les CHU qui gagnent avec les normes, en fait. Plus on met des normes, plus nos villes moyennes sont en difficulté. Je vous prends un autre exemple, la loi Elan de Julien de Normandie, qui demande d'être avec des offices HLM de 12 000 logements. À Châteaudun, on est à 1900 logements dans le logement de Châteaudun, OMI. Eh bien, plus on fait du gigantisme, plus les pouvoirs partent des villes sous-préfectures et vont à la préfecture de région ou vers les villes métropolitaines. Vous pouvez faire pareil avec les GHT dans les hôpitaux, groupements hospitaliers de territoire, donc l'office public. Et plus nos cadres publics ou privés sont ailleurs qu'à Châteaudun, ou à Langon, ou à Neuchâtel, dans les Vosges, dans les villes sous-préfectures, plus la prise de décision se fait ailleurs. Et plus elle se fait ailleurs, moins les gens comprennent ce qu'on vit dans nos territoires et au quotidien.
Il faut repartir de la base, vous diriez, Magali de la Suda, parce que j'ai envie de dire, si on rajoute aussi des sigles avec toutes ces associations, des maires de France, des maires ruraux de France, des associations des petites villes de France, votre mouvement Fabien Verdier pour le développement des villes sous-préfectures, AMF, AMRF, APVF, peut-être que tout ça aussi éloigne les Françaises et les Français de leurs élus.
Oui, parce qu'en fait, ils ont le sentiment d'être très éloignés du lieu où se prend la décision politique qui les concerne. Je pense ici aussi aux grandes métropoles qui ont subi les opérations d'intérêt national pilotées par les préfectures et par Paris, et qui voient fleurir des villes de 50 000 habitants dans la ville. À Bordeaux, c'est le quartier de l'Atlantique, où il n'y a pas un lycée qui est prévu, où le dernier hôpital de Bordeaux Sud, l'hôpital des armées, va fermer. Il n'y a pas d'hôpital prévu. On n'imagine pas la ville du Mans sans hôpital. On n'imagine pas la ville du Mans sans commissariat. Eh ben, c'est aussi ces quartiers construits et voulus par l'État depuis Nicolas Sarkozy qui posent question sur la manière dont les pouvoirs publics et les autorités locales ont prise ou pas sur les décisions d'aménagement qui concernent leur territoire. Et au niveau des sous-préfectures, c'est la même chose. Au niveau des petites communes, le fait qu'une partie, une très grande partie des prérogatives dépendent désormais des intercommunalités, ça a du bon, mais ça éloigne considérablement aussi le lieu de décision des citoyennes et des citoyens ordinaires.
Maïr Guven, j'aimerais vous entendre sur ce pôle intercommunalité qui est né en 92, mais peut-être juste un mot sur l'extrait qu'on vient d'entendre, vous qui êtes un homme de culture, 19 saisons pour L'Amour est dans le Pré, régulièrement en tête des audiences. Voilà un succès parisien et provincial qui rassemble.
Oui, exactement. Il y en a plein dans le monde de la fiction, le monde de la culture de manière générale. On a vu récemment le film d'Artus, un petit truc en plus. Il y a eu Les Algues Vertes, il y a eu Petit Paysan avant. Il y a eu d'autres grands succès populaires qui racontaient la province. On se rappelle de Bienvenue chez les Ch'tis, qui était un film 100% provincial, enfin un parisien, mais qui joue le rôle d'un Marseillais qui va à Roubaix. Les Français sont attachés, puisque la majorité d'entre nous vivons à moins de 5 ou 10 kilomètres du monde rural. Moi, c'était le cas dans mon enfance. Hein. J'étais dans une banlieue collée à Nantes. Il y avait des maraîchers déjà dans ma ville, mais à 2 kilomètres, il y avait le début des vignes et juste derrière les maraîchers. Donc, je savais ce que c'était.
Pardonnez-moi, Maïk Viven, mais je vous coupe un instant pour rebondir sur ce très bon exemple, un petit truc en plus. Le carton d'Artus, qui fait partie du top 10 du box-office mondial, on va atteindre 9 millions d'entrées. Mais alors, si on prend les tickets vendus à Paris, c'est 200 000. Hein.
Oui, c'est ce que je veux dire. C'est que le film, les Parisiens le boudent et il marche dans le reste de la France.
Ça veut dire qu'il manque de mixité, vous voulez dire, sur le territoire en général.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un état d'esprit de la province qui n'est pas saisi forcément à Paris. Et quand on connaît l'histoire du film, Artus s'est battu des années pour le monter, on comprend bien que, moi, dans mes cercles, que ce soit audiovisuel ou...
Ah, on ne vous entend plus, Maïr Guven.
Allô ?
On vous a retrouvé.
Oui.
Je vais vous relancer peut-être parce que quand vous avez monté la grenade,
oui,
votre collection...
Dans les chacs littéraires et... Dites-moi.
Quand vous avez monté la grenade et vous pourrez poursuivre votre collection chez Lattès pour faire entendre la diversité au sens large, que recherchiez-vous et est-ce que justement on vous a mis des bâtons dans les roues?
Non, on m'a mis aucun bâton dans les roues parce que j'arrivais avec une légitimité d'éditeur de presse, donc c'était pas le sujet, mais on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on m'a dit, grosso modo, ce que les gens entendent diversité, c'est raconter les récits des Noirs et des Arabes. À titre personnel, je trouve l'expression déplorable. Elle date de la colonisation. Et si on parle de la diversité culturelle pure, elle raconte à peine 50% de la diversité. Mais et en dehors de ça, on peut être d'immigration sénégalaise, avoir grandi à Biarritz ou à Châteaudun ou je ne sais où, et on raconte une autre histoire qu'un garçon qui a le même héritage et qui a grandi à Issy-les-Moulineaux ou à Paris. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui m'intéressait. J'ai récemment lancé une série documentaire avec le Média Loopsider qui s'appelle « D'où tu viens ?» et ça raconte exactement ça. On prend quelqu'un qui aurait des origines par son physique, on lui demande d'où tu viens, il nous emmène dans le bled où il a grandi. Ça peut être à Meaux, ça peut être à Eau, en Normandie ou ailleurs. Et on raconte justement comment l'enfance, le territoire de la jeunesse façonne l'être adulte. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette singularité, aujourd'hui, on devrait pas avoir à la cacher, on devrait pas avoir à cacher son accent. Je me rappelle des moqueries presque publiques de l'accent de Jean Castex, je trouvais ça honteux. Parce que pour moi, en tout cas, homme de d'art, c'est une richesse d'entendre ces accents.
Vous merci. Voyez, merci, Maïr Guven, ce sera le mot de la fin. Écrivain, éditeur, prix Goncourt du premier roman en 2018 pour Grand Frère, votre dernier ouvrage, Rien de personnel, chez Jean-Claude Lattès. Merci, Magali Della Suda, d'avoir été avec nous depuis la Gironde, chargée de recherche au CNRS, politiste. Vous avez travaillé sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Et merci à vous, Fabien Verdier, maire sans étiquette de Châteaudun, fondateur du mouvement pour le développement des villes sous préfecture. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et l'application Radio France. Merci aussi à la précieuse équipe du Temps du Débat qui m'a aidé à préparer cette émission. Margot Léridon, Juliette Mouelic, Tom Mundenstock, Zoé Vézirouglou et Margot Bouillet. À la réalisation ce soir, Vivian Lecuivre et à la technique, Florent Bujon. À demain.